le magazine des Nations Unies.
Les acteurs humanitaires en RDC vont poursuivre leur mission sur le front du Covid-19 et sur celui habituel. D'autres besoins essentiels en faveur des millions de personnes vulnérables. Assurance du représentant spécial adjoint et coordonnateur humanitaire dans un message adressé jeudi dernier sur Radio Okapi. Comme toutes les autres agences du système des Nations Unies en RDC, l'Organisation internationale pour la migration OIM est engagée dans la riposte contre le Covid-19 en appui aux autorités congolaises. Son chef de mission, Fabien Sambusi, l'a déclaré cette semaine à Kinshasa. Pour M. Sambusi, le confinement de la Gombe est une réussite pour le gouvernement. Cependant, le fonctionnaire de l'ONU indique que le combat contre cette pandémie n'est pas encore gagné. Coronavirus, la coordination pour le changement des mentalités décrète ce dimanche des Pâques, une journée des jeûnes et de prières, mais aussi un nouveau départ dans la riposte contre cette pandémie en RDC. Les détails dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Covid-19, rougeole, choléra, palu et malnutrition, autant des fronts sur lesquels les acteurs humanitaires opérant en République démocratique du Congo, a rassuré le représentant spécial adjoint et coordonnateur humanitaire David Maklaklankar dans une interview accordée jeudi à Radio Okapi. Pour le représentant spécial adjoint, en dehors de la pandémie du Covid-19, les autres endémies existantes sur le territoire congolais resteront pour les humanitaires des priorités. Le coordonnateur humanitaire est au micro d'Honoré Missenga Kalala.
Le Covid-19 ne va éclipser les autres maladies endémiques et nous allons continuer de travailler sur ces deux fronts. De leur côté, les organisations humanitaires veilleront à ce que la rougeole, le choléra, la fièvre jaune, la palue ou encore les maladies nées des complications dues à la malnutrition restent des priorités à traiter et pour lesquelles notre assistance doit se poursuivre. Toutes ces activités humanitaires qui servent à sauver des vies au quotidien sont essentielles et des millions de personnes dépendent de l'aide que nous leur fournissons, que ce soit leur accès à la nourriture et au soutien nutritionnel, aux soins de santé, à l'eau et aux biens essentiels.
Le chef de mission de l'Organisation des Nations Unies pour la migration OIM en RDC, Fabien Sambusi, estime que le confinement de la commune de la Gombe est une réussite pour le gouvernement, dont il salue la bonne collaboration. Le haut fonctionnaire onusien a fait ses déclarations mercredi dernier. Il a néanmoins souligné que le combat contre le Covid-19 est loin d'être fini et que les autorités congolaises peuvent compter sur l'appui continu de son agence. Les propos de Fabien Sambusi recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Concernant le message au gouvernement, la collaboration à l'heure actuelle est excellente. Si je prends uniquement l'exemple du confinement de la Gombe, je pense que ceci se passe très très bien. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Il y a eu certes des perturbations, mais il faut rappeler que c'est la première fois dans l'existence que la Gombe est confinée. Et arriver à mettre un confinement en place de la façon dont ça s'est passé avec un délai relativement minimum était un challenge que peu aurait pensé possible, et aujourd'hui on voit que le gouvernement congolais y est arrivé, donc pas forcément le féliciter, je pense qu'il est trop tôt pour se féliciter, mais rappeler au gouvernement congolais que nous sommes là pour l'appuyer et que nous resterons là pour l'appuyer puisque ce combat n'est pas fini et il est loin d'être fini et qu'à l'heure actuelle il est temps de redoubler d'efforts pour éviter d'être submergé par le Covid-19.
Par ailleurs, l'OIM RDC lance un appel des fonds d'environ 15 millions de dollars américains pour maintenir son appui au gouvernement congolais et maintenir ses activités dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, la coordination pour le changement des mentalités, une structure dépendant de la présidence de la République, a décrété ce dimanche pascal un moment intense des jeûnes et des prières, mais aussi un nouveau départ dans la lutte contre la pandémie. Objectif, délivrer le peuple congolais de la pandémie de coronavirus et appeler les dirigeants congolais au changement des mentalités et à plus de responsabilités intégrer dans la gestion de la Respublica. C'était au cours d'une conférence de presse animée jeudi devant le réseau des journalistes amis de l'enfant par le coordonnateur adjoint chargé de l'administration de la CCM, Jacques Chilombo. À cette occasion, il a également fait le bilan de la campagne de prière et de sensibilisation précédente. Jean-Pierre Elali Coco pour le reportage.
Pour Jacques Chilombo, la célébration de la Pâque ce dimanche doit être un moment de jeûne et de prière intense, un nouveau départ dans la riposte contre le coronavirus. Un moment crucial de vaincre les adversités qui peuvent mettre en péril les mandats présidentiels. Il s'agit, a-t-il dit, d'une vision nationale de lutte contre les calamités qui accablent le peuple congolais, dont le coronavirus. Comment expliquer qu'au moment où les Congolais sont en confinement, on puisse assister aux actes de déstabilisation du Katanga, à la circulation des médicaments périmés, à la stigmatisation de nos frères infectés par la pandémie, s'est-il interrogé, et de préciser que cette crise sanitaire doit être une occasion de revoir le fonctionnement des structures étatiques, et dans ces contextes, l'Église de Dieu doit jouer son rôle dans les changements des mentalités, les spirituels ayant toujours une ascendance sur le politique et l'économie. D'où la célébration de la Sainte Cène de ce dimanche de Pâques doit être nationale, les serviteurs de Dieu devant passer sur les chaînes des radios et des télévisions pour guider le peuple dans la prière, a-t-il expliqué. Faisant le bilan de la campagne précédente, Jacques Chilombo a noté les points positifs. Pendant 4 semaines, l'on a assisté à une faible flambée de l'épidémie par rapport à ce que l'on redoutait. 2/3 de la population ont été sensibilisés sur le coronavirus. Plus de 20 leaders religieux comme le président de l'ECC sont montés au créneau sur les chaînes des radios et des télévisions pour sensibiliser sur les mesures de prévention.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous revenons ce dimanche sur l'interview que le représentant de la FAO en RDC nous a accordée. Il conseille au gouvernement de ne pas interrompre la chaîne de production et d'approvisionnement des produits alimentaires malgré la crise sanitaire due au Covid-19, sinon le pays va en souffrir. Aristide Ongone-Obame revient aussi sur le message du directeur général de cette agence par rapport avec cette pandémie. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Ongone-Obame, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Le message du directeur général de la FAO met en garde le pays du monde sur la rupture des chaînes de production et des mesures de restriction. Comment cette situation de crise pourrait-il se traduire dans des pays à faible revenu comme la RDC et comment éviter cette crise ou cette rupture?
Effectivement, nous sommes en train de vivre une crise sanitaire sans précédent. Le monde n'a pratiquement jamais vécu une telle crise sanitaire. Alors, les États sont obligés, il faut le comprendre, de prendre immédiatement des mesures pour minimiser les interruptions, les décès, les contaminations. Alors, les mesures prises font état de fermeture de frontières, de confinement, de mise en quarantaine, ceci pourrait immédiatement avoir un impact négatif sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Donc, nous risquons, si on ne fait pas attention, nous devons éviter, parce que c'est un risque, que cette crise de santé publique ne déclenche une crise alimentaire qui empêcherait les gens de trouver ou de se procurer de la nourriture. Donc, c'est ça le fond du message du directeur général de la FAO. Donc nous devons quand même relever le défi, malgré la crise sanitaire, de veiller à ce que la nourriture soit disponible là où on en a besoin.
Comment on doit le faire dans des pays à faible revenu comme la RDC?
Je pense que c'est pas seulement les pays à faible revenu qui sont concernés par cette pandémie. Maintenant, si on veut nous focaliser sur l'exemple précis de la RDC, nous devons veiller à ce que... vous savez, cette crise, elle est mondiale. Aucun État ne peut la gérer en fermant définitivement les frontières sans contact avec l'extérieur. Vous avez constaté au niveau de certains pays et de la RDC que les seuls magasins qui restent ouverts, c'est les alimentations et les pharmacies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans ces magasins où se trouvent les produits de première nécessité sans lesquels la vie ne peut pas continuer. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans les magasins d'alimentation? Ce sont des aliments qui sont ailleurs. Donc, ce tailleur-là, l'agriculteur ou les transformateurs, eux, obligatoirement, doivent continuer à travailler. Sinon, les magasins vont se vider. C'est pas les magasins qui produisent les aliments. Si personne ne peut travailler, effectivement, les magasins vont se vider, les pharmacies vont se vider. À la crise sanitaire, on va ajouter une autre crise très, très grave aussi, c'est la crise alimentaire. et on ne peut pas gérer les deux crises. Donc, il faut que la RDC regarde, en fermant les frontières, en mettant les gens en confinement, en mettant certaines parties de la République en quarantaine, veillez à ce que les chaînes d'approvisionnement alimentaire doivent continuer à fonctionner. Okay. On doit permettre aux agriculteurs congolais de continuer à produire. De quelle manière peuvent-ils continuer à aller au champ pour qu'il y ait de la nourriture? De quelle manière peut-on assurer que tout ce que nous consommons en RDC et qui vient de l'extérieur, tout le monde sait que la RDC importe une grande partie de son alimentation. Si toutes les frontières sont fermées, si les aliments ne peuvent plus arriver en RDC, nous allons créer une autre crise.
Monsieur le représentant, quel serait en ces temps des spectres de pénurie alimentaire et de hausse des prix dus au Covid-19 en RDC, quelle serait la contribution de la FAO, votre agence?
La contribution de la FAO sera toujours la même, c'est-à-dire de mettre à la disposition des gouvernements les informations sur les prix, les informations sur la campagne agricole, la production alimentaire et de faire ce que je suis en train de faire, donner les conseils, les orientations de comment faut-il faire pour préserver les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Il faut absolument le faire. Donc le rôle de la FAO, c'est celui-là, orienter les États, les aider, là où on peut encore intervenir. En RDC, il y a des coins où nous pouvons encore aller intervenir, accompagner les populations à continuer à produire.
Par exemple,
nous sommes présents, par exemple, dans le nord et le sud Kivu, où nous accompagnons des populations à produire. Nous sommes présents dans le Tanganyika, où nous accompagnons les populations à produire. Et dans d'autres parties, nous intervenons à peu près dans 16 provinces des 26 de la RDC. Là où on est présent et que les populations produisent, l'État doit nous accompagner, doit comprendre qu'on ne peut pas systématiquement dire à ces gens d'être confinés, de rester chez eux. Nous devons trouver des corridors pour que ces gens puissent toujours aller aux champs produire. C'est ce qui va permettre à ceux qui sont en confinement de continuer à résister.
Oui, pour terminer, monsieur le représentant, en ces temps de crise sanitaire en République démocratique du Congo, est-ce que vous avez un mot, un petit message à la population congolaise dans son ensemble en ces temps de crise?
Oui, nous avons un mot, bien entendu, parce que nous sommes au Congo, nous sommes ensemble. C'est la première chose que je tiens à leur dire. On ne part pas, on est là pour les accompagner. Il faut que là où la FAO se trouve actuellement, qu'on continue à travailler avec ces populations, que ces populations gardent l'espoir, que ces populations appliquent tout ce qu'on leur demande de faire en termes de mesures barrières, se laver les mains, la distanciation sociale, le confinement quand il sera effectif, de le respecter, mais toujours en disant que ceux qui produisent doivent toujours avoir le courage de produire, sinon le pays ne tiendra pas.
Ngomne Obam, je vous remercie.
Je vous en prie.
ONU Femmes et l'ambassade de Suède ont remis mercredi des kits de résilience au consortium de solidarité des organisations féminines. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part la ministre d'État du Genre, Famille et Enfants, le ministre de la Santé et la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap. Ces kits permettront à 800 femmes et à leurs familles de compenser le manque des revenus, d'utiliser leurs économies pour acheter d'autres articles tels que des médicaments et d'être mieux informés sur les mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19. Libération des 38 pensionnaires de la prison centrale de Kindu au Maniema mardi dernier. Selon le procureur général, après le parquet général de Kindu, c'est en exécution des décisions prises par le gouvernement central dans le secteur de la justice de désengorger les prisons dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Ces prisonniers étaient condamnés pour la plupart pour des faits bénins. Dans son adresse, le procureur Albert Nkachama a invité les 38 bénéficiaires de cette mesure exceptionnelle de s'amender et de ne plus répéter les actes infamants qui énervent la morale collective. À Baraka, dans le sud Kivu, un comité de réponse et de suivi des activités préventives et des stratégies de lutte contre la pandémie de Covid-19 a été mis en place à travers des des plans d'action concrets. C'était à l'issue d'une rencontre organisée par le médecin chef des zones de santé de Fizi, le maire de la ville de Baraka ainsi que les représentants de la MONUSCO, MSF, UNOCHA, FRDC, PNC, ANR, ADS et IMC ont pris part à cette réunion. Les participants ont discuté et convenu d'un budget estimé à 734 850 $ pour atteindre l'objectif assigné.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invitée dans cette édition, c'est la représentante du HCR-RDC. Madame Lise Aoua parle notamment de la contribution de son agence dans la riposte contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Suivez plutôt la représentante du HCR qui répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Madame la représentante, bonjour.
Bonjour à vous.
Madame, toutes les agences du système onusien opérant en RDC sont mobilisées derrière le gouvernement dans la riposte contre le Covid-19. La représentante spéciale du secrétaire général l'a affirmé dans sa déclaration la semaine dernière. Quelle est alors la contribution concrète du HCR au soutien des efforts des autorités sanitaires de la RDC?
Merci beaucoup pour cette opportunité de partager ces informations avec la population. Pour le HCR, il s'agit en premier lieu de la santé et bien-être des réfugiés et des personnes déplacées. Ça, c'est une priorité pour le HCR. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement, dont la Commission nationale des réfugiés, les agences des Nations unies et les partenaires. Et étant donné que les réfugiés et les déplacés internes sont inclus dans le plan national de veille et de préparation et de réponse, le HCR travaille sur la mise en œuvre des mesures préventives pour sensibiliser les réfugiés et les personnes déplacées. Mais nous travaillons aussi avec les communautés d'accueil. Nous avons mis sur place des points de lavage dans des lieux stratégiques comme les entrées de camps et des sites ou encore des centres de transit. Nous distribuons aussi pour faciliter le lavage. Le acte de le gouvernement a renforcé le système de santé en mettant en place des centres de confinement pour les personnes potentiellement atteintes du COVID dans les provinces de Kasaï et le Kasaï central pour éviter que les hôpitaux généraux soient utilisés pour le traitement des potentiels cas positifs au COVID et ainsi éviter une propagation du virus. Dernièrement, nous travaillons avec les relais communautaires composés des hommes et des femmes volontaires de la communauté pour appuyer le HCR dans les activités de prévention afin de rapidement informer et sensibiliser les populations à respecter les mesures de distanciation sociale. Voilà en bref ce que nous sommes en train de faire.
Oui, alors madame, quels sont les défis que le COVID-19 pose aux opérations habituelles de votre agence en RDC?
La crise causée par le COVID aura bien sûr des impacts sur nos opérations. Pour le moment, en dehors de Kinshasa, nous sommes dans 16 localités, pratiquement dans l'est du pays et dans les Ubangi et les Kasaï. Le COVID nous oblige à ajuster rapidement nos méthodes de travail. Normalement, on fait des descentes sur le terrain, on cause avec les populations. Il y a les équipes qui vont sur le terrain partout. Mais pour le moment, on est obligé, nous aussi, de faire le télétravail et de réduire les descentes sur le terrain. Il y a les impacts de cette réduction de notre présence sur le terrain. Si ça devrait continuer, bien sûr, on sera même obligé de ralentir le rythme de nos activités et de réorienter nos activités. Normalement, nos activités sont dans le matière de la protection et de l'assistance aux réfugiés et aux déplacés internes, la construction des abris, l'octroi de l'eau et aussi un soutien pour que les gens soient autonomes. On est obligé de ralentir et comme je disais tout à l'heure, si ça devrait empirer, on va même complètement réorienter et focaliser uniquement sur les activités de prévention et de hygiène seulement.
Oui, Madame Lise, l'une des conséquences, c'est la fermeture des frontières par la RDC et ses pays voisins. Est-ce qu'il n'y a pas un impact, notamment sur les opérations de rapatriement des réfugiés?
Bien sûr que oui, qu'il y a effectivement un impact sur ce que nous appelons l'opération de rapatriement volontaire. jusqu'au 20 mars dernier, l'OACR organisait encore des convois de rapatriement volontaire du sud de Bangui pour ramener les Centrafricains chez eux. Aujourd'hui, on est obligé d'arrêter ce convoi. Il y avait aussi le rapatriement pour les réfugiés rwandais et des Congolais qui revenaient aussi de l'Angola. Tout cela, on a été obligé, bien sûr, à arrêter pour conformer aux consignes sanitaires qui nous ont été données par le président.
Et il semble, madame, qu'il y a des réfugiés congolais de l'Ouganda qui sont bloqués à cause de cette fermeture de frontières.
Nous affirmons que, bien sûr, que les frontières sont fermées et tous les rapatriements volontaires de la RDC ou vers la RDC sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Que ce soit de l'Ouganda où il y avait un petit groupe ou de la Tanzanie aussi qu'il y avait un intérêt de retour ou de la Zambie, voilà les pays qui nous ont signalé les retours, mais on était obligé de leur dire d'attendre, de suspendre tout mouvement jusqu'à nouvel ordre.
Madame, l'OACR se prépare à transférer des demandeurs d'asile se trouvant dans un centre de transit au sud Kivu. Pourquoi?
Effectivement, au sud Kivu, nous avons les demandeurs d'asile qui sont dans le site de transit depuis un bout de temps. Il y en a qui sont arrivés depuis 3 mois, donc ils étaient dans ce centre-là. Et le centre est construit pour recevoir un nombre de personnes limitées. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 1900. Ce sont des Burundais et nous jugeons que s'ils continuaient là où ils sont, ça pourrait faire atteinte aussi aux besoins sanitaires qui pourraient être occasionnés par COVID-19. Donc pour nous, nous jugeons que c'est mieux de les transférer et de les mettre dans le lieu de confinement que nous sommes en train de construire pour qu'on puisse mieux les surveiller et éviter la promiscuité qui pourrait aussi porter aux atteintes non seulement à la santé, mais les probabilités d'avoir des problèmes avec le COVID-19.
Oui, madame, on connaît la promiscuité dans les camps des réfugiés et des déplacés. Ces camps ont-ils besoin de mesures spéciales ou supplémentaires afin de mieux protéger les deux catégories de personnes?
Effectivement, souvent quand il y a la promiscuité, et surtout qu'un des consignes, un des mesures qu'on donne par rapport à la distanciation sociale, c'est d'être à 1 mètre à portée de l'un l'autre. Aujourd'hui, nous avons des déplacés internes et des types de réfugiés qui ne répondent pas à ce nom-là. Et donc, ça pose des difficultés et des risques potentiels pour nous tous.
Oui, il y a aussi des risques pour les travailleurs eux-mêmes du ASR. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques pour les préserver aussi?
Effectivement, pour nous tous, d'ailleurs, et pour les travailleurs, comme vous voyez, quand on regarde la télévision, on est exposé potentiellement à la pandémie. Donc, nous sommes en train, comme tout le monde, à se référer au plan national de veille pour s'assurer que le personnel qui va sur le terrain soit protégé. Et nous avons demandé pour des équipements additionnels pour pouvoir à ces travailleurs.
Au-delà de votre appui au gouvernement, madame, quel est le message du ACR en ce moment où l'humanité fait face à cette pandémie du COVID-19 qui n'épargne aucune nation?
Il y a plusieurs messages à donner. En premier lieu, à toute la population réfugiée et des déplacés internes, de respecter soigneusement les consignes qui ont été données par le gouvernement, parce que c'est ces consignes-là qui vont nous sauver de ce COVID-19. De s'éloigner, de se confiner soi-même et de laver les mains, prêter attention, parce que quand on se protège, chacun de nous, réfugiés ou déplacés, on protège tout le monde. À tous les personnels soignants, courage, courage et courage encore. Aux collègues qui sont sur les lignes de front, comme je peux le dire, qui sont dans les 16 localités où le ACR travaille, en étroite collaboration avec le gouvernement. Là encore, c'est beaucoup de courage à leur endroit. Voilà.
Merci beaucoup, madame.
Merci, merci beaucoup à vous.
Le gouvernement provincial du Maniema a réceptionné mardi dernier un important don des matériels de lutte contre le COVID-19. Un don du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, acheminé de Kinshasa à Kindu par la MONUSCO. Consultant à l'UNICEF, le docteur Chansa a expliqué de quoi est constitué ce don. C'est au micro de Christian Mapendano.
Ce matériel nous est parvenu ici par l'intermédiaire de la MONUSCO, qui a fait deux rotations pour que nous puissions avoir ces matériels. La première rotation a eu lieu le vendredi et la seconde rotation a eu lieu le samedi. Ces matériels, comme je l'ai dit, entrent dans le cadre de la prévention et contrôle des infections. Ils sont constitués de 100 paires de bottes, 911 paires de gants en caoutchouc, qu'on appelle les gants de ménage pour certains, 200 seaux. Et il y a 72 détergents. Nous avons reçu aussi 4 touques de chlore et les savons Munganga ainsi que les savons lessive. Nous avons également reçu 20 pulvérisateurs, dont 10 en plastique et 10 métalliques. Et nous avons également reçu 5000 gants d'examen, plus 50 pièces de thermoflash, 80 pantalons qui vont servir pour les désinfecteurs dans les hôpitaux. En dehors de ça, l'UNICEF a contribué dans la communication en appuyant 5 radios locales qui peuvent faciliter la sensibilisation de la communauté sur cette pandémie, le Covid-19.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Question posée à l'officier de la section protection de l'enfant de la MONUSCO, Justin Vougouvougou, par Jules Ngala.
Monsieur Justin Vougouvougou, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ici, je vois beaucoup d'enfants. Ils vont faire quoi?
Et ces enfants étaient parmi les 390 éléments qui se sont rendus au FRDC après la sensibilisation normalement du gouvernement congolais, mais aussi nos collègues de DDR. Ils se sont rendus et quand ils sont arrivés ici, comme nous, en tant que section protection de l'enfant de la MONUSCO, nous avons un mandat, on a collaboré avec le bureau de renseignement des FRDC et ensemble nous avions séparé 61 enfants que vous voyez, dont 28 sont déjà partis et maintenant il y a 33 que nous retournons à Beni. C'est pour cette raison que UNICEF a demandé l'appui de la MONUSCO pour le transport de ces enfants. C'est vrai, il n'y a pas vol, mais c'est un vol spécial pour juste amener ces enfants à Beni pour que ces enfants puissent regagner leur famille.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Pour ce qui est de notre agenda, sachez que le 16 avril sera célébrée la journée mondiale de la voix et le 17 avril, la journée mondiale de l'hémophilie sera commémorée à travers le monde. C'est la fin de cette émission. Elle a été coordonnée et réalisée par Jean-Pierre Elali Koko. Honoré Misenga Kalala était au reportage. Billy Van Lutumba, je vous l'ai présenté avec l'aide technique de Jean-Noël Mokondo. Excellente journée dominicale à toutes et à tous.